Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Chers auditeurs,
dear listeners,
bonjour.
Welcome in Comme d'Archi Podcast Season 3.
Saison 3, dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant,
now,
lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archi.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Maxime Le Trillonnaire et Gwenaël Le Chaplin. Bonjour Maxime et Gwenaël.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de Alta Architectes Urbanistes. Votre agence est basée à Rennes et compte près de 40 salariés, c'est à peu près ça, un peu moins ?
Un petit peu moins, on est 35.
35. Et vous travaillez sur des programmes de logement, beaucoup, mais aussi mixtes, tertiaires, apparemment des équipements, je crois que...
On essaye.
Oui, mais vous avez quelque chose sous le coude.
Bah, c'est pas toujours si simple, mais on essaye de se diversifier, effectivement.
Avec une échelle de projet assez conséquente, et surtout dans l'Ouest, mais aussi en région parisienne.
Tout à fait.
Jean-Louis Violeau, sociologue, a écrit vous concernant « Si les architectes veulent éviter de parader dans un univers fleur bleue, ils doivent prendre en charge la résistance du réel. » Pour ce faire, Maxime Le Trillonnaire et Gwenaël Le Chaplin combinent au sein d'Alta des propriétés contradictoires entre liberté, diversité et maîtrise dans le sillage de leurs rassurants aînés Jean-Luc Le Trillonnaire et Alain Tassot. Un papa architecte en vue.
Un petit peu.
Si vous le voulez bien, vous allez nous raconter tout ça et on va commencer par le début. Quels sont vos parcours respectifs ? Quelle a été votre jeunesse ? Où se sont ancrées vos envies d'architecture ? Et quelles ont été vos études ? On commence par ?
Bon, j'ai commencé.
Gwenaël.
Du coup, ma jeunesse s'est passée au bord de l'eau, dans le Morbihan. Beaucoup de dessins. C'est quelque chose qui est récurrent et qui est là depuis le départ. Ce qui m'a vraiment donné envie de faire architecture, c'est une rencontre, en fait, comme plein de monde. Et j'ai découvert, en fait, la maison d'un voisin qui est Gustave Gauthier, qui est un artiste multifacette qui a fait sa maison, mais qui est à la fois architecte d'intérieur, peintre, sculpteur.
Donc, où exactement ?
Vraiment les pieds dans l'eau à Etel, Belzin.
Ah, Etel.
Et c'est vraiment ça qui m'a nourri et qui m'a donné envie de m'orienter vers cette branche pour essayer de un petit peu marcher dans ses pas.
Moi, de mon côté, il n'y a pas beaucoup de dessins, parce que j'étais pas très bon. Je suis toujours pas très bon en dessin, d'ailleurs, malgré ce que les gens pourraient penser. Tous les architectes ne dessinent pas à la perfection. Moi, ça s'est fait de manière un petit peu naturelle. On a parlé de mon papa tout à l'heure. Effectivement, moi, j'ai un peu baigné dans cet univers-là, sans même m'en rendre compte. Donc, ça a été, pour moi, assez naturel de m'orienter vers ça. J'avais envie, petit, de devenir architecte international, un peu pompeux. On n'y est pas parvenu, en tout cas pas encore, et je doute qu'il nous reste suffisamment de temps. Mais voilà, moi, j'ai un petit peu traîné mes guêtres dans les bureaux de dessin des agences où il travaillait. Ça me rappelle tout un tas d'odeurs à l'époque.
Parce qu'il était en agence.
Il était déjà en agence. Il travaillait en association dans une grosse agence rennaise avant de prendre son envol et de s'associer avec Alain Tassot.
Donc vous avez repris son agence.
Je ne sais pas si on peut dire qu'on a repris l'agence. On s'est installé sur une sorte de transmission un petit peu longue avec eux deux, en essayant d'abord de travailler à quatre, ce qui s'est passé de manière aussi là, assez naturelle. Et grâce à leur bienveillance, on a réussi aussi à adapter une agence qui existait déjà depuis une vingtaine d'années, un petit peu à notre image. L'exercice, il n'est pas forcément simple. Il n'est pas plus simple, en tout cas, malgré ce qu'on pourrait croire, que de créer sa propre ouais. l'agence. Ouais. Ça pose un tas de questions, mais aujourd'hui, on arrive avec un bel outil qui nous permet de nous balader un petit peu et puis d'aller explorer un certain nombre de territoires architecturaux.
Vous êtes rencontré à l'école ? Vous avez fait l'école d'archi de Rennes ?
Pas du tout.
Pas du tout.
On a fait l'école en fait de Nantes, hein. L'architecture de Nantes. On s'est rencontrés pendant les premiers jours des études. Et c'est encore une histoire de territoire. Hein. C'est ce territoire breton dont on parlait autour de la Ria d'Etel qui nous a réunis dès le départ, qui a créé des connivences. Et voilà, on a fait l'ensemble de nos études ensemble. On a fait Erasmus ensemble à Prague. Et on a eu un parcours professionnel à peu près similaire, dans des agences des fois d'ailleurs similaires. On a été par la suite à Paris et on a monté notre première structure ensemble, également faite à Paris.
D'accord, avant de reprendre l'agence de votre père.
Ouais, pour compléter, préciser un peu ce que dit Gwenaël, on a ce territoire effectivement commun qui est un territoire assez fabuleux, la Ria d'Etel. Donc ça se trouve, pour ceux qui ne connaissent pas, entre Quiberon et Lorient. C'est une sorte de petit golfe du Morbihan, mais un petit peu plus anonyme, un petit peu plus préservé. Et moi, j'y ai passé beaucoup de vacances dans mon enfance, sans jamais y rencontrer grand monde, parce qu'on vivait, un petit peu en famille dans la petite maison de mes grands-parents. Et sans le savoir, effectivement, Gwenaël est originaire, pour le coup, lui, de là-bas. Et on s'est découvert ce trait commun, je pense, 3-4 jours après être entré à l'école d'archi. On ne s'est pas quitté. Malgré nos différences, on a tout fait presque ensemble. Aujourd'hui, on est presque sur un rapport un peu familial, nos enfants ont grandi ensemble, on est parents respectivement de nos enfants. Enfin, il y a une vraie continuité.
Oui, une fraternité entre vous.
Oui, tout à fait. Ouais.
Esprit très.
Ouais. Après, comme Gwenaël le disait, on a été après le diplôme, on a été faire les agences un petit peu à Paris. On a travaillé d'abord au préalable tous les deux chez quelqu'un qui s'appelle Duncan Lewis, qui était à Angers à l'époque et qui est sur Bordeaux désormais. Et puis, une fois qu'on s'est retrouvés à Paris, moi, je suis passé par chez XTU.
Stéphane Maupin.
Et puis, on a commencé à partager des locaux avec tout un pool d'architectes. Stéphane Maupin, Edwin Erkins, il y avait Sophie Delay, il y avait Tactique des paysagistes, Joran Briand, designer.
Oui, bah on l'a déjà interviewé.
Mmh. Voilà, tout se recoupe. pas mal de gens de l'Ouest, à un moment donné, à Paris, ouais. Puis qui sont repartis aussi. C'est le propre des gens de l'Ouest qui retournent souvent au pays.
Ouais.
Donc on a évolué comme ça quelques années. On a commencé à travailler déjà pas mal avec cette agence rennaise qui existait, qui s'appelait déjà Alta. Et puis on s'est rendu compte à un moment donné que travailler ensemble, il était peut-être assez cohérent de vraiment regrouper les forces. Ça correspond aussi à un moment de vie où on a eu nos premiers enfants et il s'agissait de prendre une vraie décision d'un parcours professionnel et familial. Donc je suis retourné à Rennes et Gwenaël a migré vers la capitale bretonne.
Mais vous disiez que c'était pas si simple de prendre la suite d'une agence, mais vous aviez quand même un carnet de commandes. Il a fallu reconquérir la confiance de la clientèle qui existait déjà, ou vous avez vraiment changé de paradigme ? Comment ça s'est fait au niveau de la commande ?
Ça ne s'est pas fait du tout comme ça. Ça s'est fait de manière très naturelle. En l'occurrence, me concernant, il y avait cette filiation naturelle de par l'activité de mon père et de son associé qui est devenu notre associé Alain Tasso, qui moi, effectivement, et lui, c'est un peu comme Gwenaël et moi, hein, il m'a vu naître et grandir. Ils nous ont installés dans des super conditions, nos deux aînés, comme le dit Jean-Louis Violo. En l'occurrence, ils avaient effectivement, non pas un carnet de commandes, mais des maîtres d'ouvrage qui leur faisaient pas mal confiance, qui ont appris à nous connaître, on a appris à les connaître. On a marché un petit peu dans leurs pas un certain nombre d'années. La transition, elle s'est faite sur 8 ans, ce qui est assez long et ce qui n'a pas obligé pour eux à imposer de nouveaux associés, mais les connaissances se sont faites de manière extrêmement, extrêmement simple et naturelle. Il y a des gens avec lesquels ils travaillaient, et ça c'est le jeu de la rencontre des hommes qui n'ont pas continué avec nous, d'autres avec lesquels ils ne travaillaient pas, qui au contraire sont venus directement pour entamer des histoires de projets avec nous. Là où on a eu de la chance, c'est qu'ils ont été extrêmement bienveillants, ils nous ont fait confiance. Le moment où on arrive à Rennes, on est retenu notamment sur un concours extrêmement important pour nous. Aujourd'hui, on appelle ce projet la Tour Amazonie, mais Quelque part, ils ne nous ont pas testés, mais ils nous ont donné les clés du camion à ce moment-là pour nous dire bah, « Ok, les gars, vous arrivez de Paris, montrez-nous ce que vous avez dans le ventre. » Et puis, on s'est mis à la tâche. Tous les deux, comme des grands, on a travaillé sur ce concours. On a charrété tous les deux. Et puis, on a eu la chance de gagner ce concours qui a été un moment de bascule dans notre histoire à nous et dans l'histoire de l'agence. Parce que c'était aussi une manière pour nous de faire un petit peu notre place et de nous légitimer. Alors, toujours avec... leur regard, leur sens critique, mais rapidement, en fait, ils ont vu quelque part en nous le moyen de prolonger leur histoire. Donc, ils nous ont beaucoup, beaucoup accompagnés. Donc, finalement, ça n'a pas été si compliqué. Quand je dis que ce n'est pas plus facile, ça s'est fait de manière, en tout cas chez nous, extrêmement simple et naturelle.
C'est vrai qu'il y a eu ces 8 années de transmission, de passage de relais. Mais depuis Paris, en fait, on travaillait également en fait, avec eux 4-5 ans en fait, avant. On était associés sur des opérations privées, de logements, associés sur du public aussi. On avait gagné un équipement aquatique aussi à cette époque-là. Donc ça s'est fait en fait dans le relais. Et finalement, Maxime parlait de donner les clés du camion. Ils nous ont fait rencontrer en fait un certain nombre de clients privés et la passation s'est faite aussi assez simplement en fait avec eux. Il y a eu très peu de défections et également en fait en interne de la même manière. Des fois en fait ça peut mal se passer. Il y a eu aussi une acceptation, une bienveillance de la part des différents collaborateurs qui étaient là bien avant nous. Quand on est arrivé, on était même les plus jeunes. Donc c'est pas non plus évident en fait de reprendre une structure.
Et au niveau, pardon, je vous coupe, de l'effectif, il y avait quand vous avez repris, il y avait à peu près le même nombre de.
Vous étiez une quinzaine.
On est arrivé en 2011 ou 2012. Effectivement, on était 17, je crois, avec nous à ce moment-là. Après, on n'a jamais cherché à. On n'a jamais cherché à développer l'agence et à fabriquer une grosse agence. C'est aussi le jeu de la commande qui fait que bah, pour avoir une certaine efficacité, on peut ou on ne peut pas se permettre d'engager du monde. Mais quand on peut le faire, ça nous donne un certain confort, une certaine aisance pour répondre au mieux aux gens qui nous font confiance. Et puis, bah, la capacité à faire appelle aussi des nouvelles commandes, etc. Et puis, quand on essaye de limiter d'abord à 20, bah, on passe à 22, 24, 25. Et quand on essaye de limiter à 25, on passe à 30, etc.
Et j'ai vu que vous aviez... je vais passer un projet de 300 logements. Enfin, c'est vraiment des...
C'est extrêmement variable. C'est peut-être ce qui nous différencie d'un certain nombre de camarades, confrères, architectes. On le voit quand on s'associe avec des gens qui viennent de Paris notamment. Pour un même effectif, la particularité des agences, on va dire régionales ou provinciales, c'est que on travaille un petit peu sur toutes les échelles. Nous, on peut faire 15 logements comme on peut en faire 200. Mmh. C'est l'intérêt du projet. C'est surtout la rencontre avec les gens qui nous guident aujourd'hui. On a la chance d'avoir des gens qui font confiance à nous, mais surtout à l'agence. Donc globalement, s'il y a de l'envie et de l'ambition de leur côté sur un petit projet, ça nous stimule autant que sur un gros projet.
Alors on va mettre un tout petit peu le projet en suspens, on y revient tout de suite après. J'ai la fameuse question dans Comme d'Archer qui est « Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école ?» Alors vous parliez de grandes ambitions, peut-être que vous n'aviez pas les mêmes. Appropriez-vous le...
Je ne sais pas s'il y a une bonne réponse en fait à ça. Déjà je pense qu'on est plutôt au milieu de notre... exercice, si on peut l'appeler comme ça. Moi, j'ai passé, en tout cas, les études en fait d'architecture avec beaucoup de plaisir. J'avais beaucoup d'envie, mais j'y ai pris aussi beaucoup de plaisir. J'ai même réussi à convertir en fait mon frère tellement j'adorais en fait ces études. Et par la suite, encore une fois, j'ai beaucoup de plaisir à travailler au jour le jour. Donc, d'une certaine manière, c'est une forme de réussite de faire un travail aussi passionnant.
Je ne sais pas trop comment répondre à cette question. On est un petit peu pris dans l'exercice ou dans notre fonctionnement quotidien. À chaque fois qu'on nous propose un projet, qu'on nous sollicite pour une consultation, qu'on est pris sur un concours, on est un peu dans le feu de l'action. Je pense qu'il y a 10 ans, si on nous avait dit... qu'aujourd'hui, on aurait de quoi faire vivre une agence, qu'on travaillerait sur des projets hyper intéressants, diversifiés. On se serait dit, bah ouais, c'est exactement ce vers quoi on veut aller. aujourd'hui, un peu dans le feu de l'action, on ne s'en rend pas compte. Je pense qu'on concrétise effectivement pas mal d'envies de l'époque. On a vraiment la chance de bosser sur des projets variés. On a la chance de pouvoir aussi se déplacer. Alors on a évidemment un ancrage breton ou de l'Ouest hyper fort de par là où on vient et de par la commande sur notre territoire. Mais on a la chance de pouvoir aller voir ce qui se passe un peu à Bordeaux, voir ce qui se passe un peu à Lyon, voir ce qui se passe un peu en région parisienne. En tout cas, on ne s'interdit rien. Pour l'instant, on est encore en forme, donc on peut se déplacer. Et puis surtout, c'est
extrêmement... Il y a comme une bonne marge.
Ouais, non, mais on est encore en forme, mais ça commence à tirer parfois. Mais l'idée, c'est que je pense que quand on se balade un petit peu hors de nos territoires, c'est aussi une manière de voir d'autres manières de faire. On a la chance d'être dans une région où il y a un vrai professionnalisme de toutes les professions, on va dire connexes au monde de la construction. Mais c'est bien aussi de voir ce qui se passe ailleurs. Ça nous nourrit quand on revient chez nous sur nos bases rennaises, nantaises ou plus globalement bretonnes. Mais oui, je pense qu'aujourd'hui, on est un petit peu à la croisée des chemins. On arrive à la fin d'un premier cycle. On a vu pas mal de trucs. On a pris quelques claques. On a eu des super moments. L'idée, c'est que maintenant, ce soit systématiquement des belles histoires.
Oh, les claques, on en prend toujours.
Et on continuera à en prendre, je pense.
Ben oui, il faut... Après, ça nous rend peut-être meilleurs.
Il faut être très bon, alors.
Pouvez-vous nous raconter maintenant l'histoire de vos projets ?
On a évoqué tout à l'heure le projet de la tour amazonique qui a été un virage en tout cas pour nous. On a essayé de codifier ou un petit peu mieux définir notre approche. On n'est pas dogmatique, on n'a pas d'écriture à proprement parler. Ce qui nous anime ou ce qui nous dirige, c'est plutôt l'usage. L'usage au niveau des bâtiments doit générer en fait l'architecture. Pour donner un exemple au niveau de la tour Amazonie, le souhait premier, c'était d'offrir une variété d'appartements et notamment via les espaces extérieurs, d'avoir une richesse à ce niveau-là. Et c'est ce qui génère en fait des bâtiments. Et de ce projet, on essaye de le décliner sur l'ensemble des autres projets à venir.
Maxime.
Ouais, la tour Amazonie, c'est effectivement le moment de bascule dans l'histoire de l'agence et de notre exercice, on le disait, mais c'est effectivement le moment où on essaye de mettre en place des mécanismes qui nous permettent de générer de l'envie dans les logements. On dit souvent que les archis ne vivraient pas forcément les logements qu'ils dessinent, au contraire, je pense qu'on s'y est pas mal projeté dans celui-là, en l'occurrence, dans ce projet. On a essayé quelque part, au travers de ce bâtiment de moyenne hauteur, puisque c'était la particularité de cette ZAC, la ZAC du Pré-Gaucher, menée par l'atelier Ruelle, on appelle ça aussi la ZAC Euro-Nantes, de projeter véritablement les logements vers l'extérieur, vers la ville de Nantes, de lui rendre quelque part ce qu'elle nous avait amené ou apporté pendant nos études, ou au contraire, faire vraiment rentrer le paysage à l'intérieur des logements. Donc il y a tout un tas de dispositifs de jardins d'hiver qui permettent à ces hauteurs-là, c'est un bâtiment qui est monté R+19, ça permet à ces hauteurs-là de pouvoir vivre son logement un peu plus tard dans l'année, ou en tout cas son espace extérieur un peu plus tard dans l'année à l'automne, ou un peu plus tôt au printemps. Ces dispositifs-là, on l'a déjà beaucoup dit, hein, mais nous on vient de Bretagne, on a parfois un plafond assez bas en ce qui concerne le temps et surtout la lumière. On a vraiment besoin que la lumière elle jaillisse dans les logements. Ça, en tout cas personnellement, ça agit sur mon mental et sur mon moral dès le matin. Donc s'il y avait... quelque chose, effectivement, un fil rouge dans l'ensemble des projets qu'on essaye de mettre en place aujourd'hui, c'est sans doute ce rapport à la, non pas à l'extérieur, mais ce rapport à la lumière, essayer de baigner les logements d'un maximum de lumière. Donc c'est l'usage, c'est l'espace. On se bagarre beaucoup pour essayer d'agrandir les logements, pour essayer d'améliorer la qualité des logements. Malheureusement, il y a des normes, on se heurte parfois à certaines contraintes, mais on essaie de compenser sur ces questions de lumière, ces questions de prolongement extérieur dans chacun de nos projets. La grosse crise qui vient de nous arriver, le Covid, nous donne quelques arguments par rapport à ça. On sait aujourd'hui que proposer des petits balcons de 80 cm, c'est plus suffisant et qu'on a besoin d'autre chose pour avoir tous souffert de cette situation pendant 2 ans. Donc, effectivement, la tour Amazonie, c'est un déclencheur. Mais après, dans tous les projets qu'on a pu faire, je pense à une résidence intergénérationnelle à Rennes où on a essayé de travailler aussi des grandes proportions de vitrage. Ça avait déjà même été initié avant avec un tout petit projet à Charleville-Mézières. On était sur des façades 100% vitrées. Voilà, c'est un petit peu le fil rouge. Après, Il y a effectivement quelques projets marqueurs qui nous ont permis de faire des belles rencontres.
Vous pouvez en parler ?
En évoquant la Tour Amazonie, c'est aussi le moment où on a pu être retenu sur des concours qui nous ont permis de faire autre chose aussi que du logement, notamment des équipements mixtes. Par cette occasion, on a rencontré Gaël Amonique et Jean-Christophe Masson, par exemple, avec lesquels on a été associés sur un joli projet de tertiaire dans la ZAC Euro-Rennes. Voilà, qui nous a permis de nous exprimer sur d'autres univers, avec aussi la bienveillance de cette agence. Ça a été une belle histoire. Et puis, on a l'impression qu'à chaque fois, ce sont des rebondissements, finalement, d'un projet à l'autre, qui nous fait rencontrer, qui nous donne des opportunités dans chacun de nos projets. Et puis, on a la chance d'être capable de s'associer, c'est pas toujours le cas, et d'avoir, à ce jour, fait que des rencontres qui nous ont menés sur des projets intéressants.
C'est un petit peu la manière dont se dessine l'architecture aujourd'hui. C'est de l'agilité, des associations suivant les contextes, de la commande.
Et que ce soit, on parlait de rencontres, que ce soit pour du logement ou pour du tertiaire, on essaye en fait d'insuffler des lieux de vie, des lieux de rencontre, d'élargir les couloirs, d'avoir des halls généreux qui permettent en fait d'autres fonctions. Et au même titre, dans des opérations de tertiaire, on n'est pas sur des boîtes, comment dire, totalement lisses et rigides. On va essayer d'apporter des qualités de logement au niveau du tertiaire, offrir en fait des espaces de rencontre, des prolongements vers l'extérieur, de grands balcons, des zones de rencontre et d'échange.
La question du développement durable, vous l'intégrez de quelle manière ? Comme tous vos confrères, par le biais des labels, ou est-ce que vous, de temps en temps, vous essayez de pousser un peu plus la roue ? Vous avez l'occasion de le faire, parce qu'il faut aussi trouver des maîtres d'ouvrage qui aillent dans ce sens.
On est sensible, en fait, à, comme nos contemporains, aux problématiques, à la neutralité carbone vers laquelle, en fait, on doit tendre. Dans ces projets, en tout cas, un petit peu marquants, on a gagné dernièrement une école à Tours où on a essayé de pousser les curseurs, en tout cas nos curseurs, avec des structures bois, des isolants biosourcés, avoir un travail sur la pérennité du bardage, notamment, tout en y associant des imaginaires d'enfants, de cabanes, et voilà, de rebondir sur des rêves d'enfants.
Cette école, d'ailleurs, dont on va parler dans le format en anglais. Ce projet, qui en est où, d'ailleurs, au niveau de la chronologie ?
Il est en appel d'offres, là, actuellement. Donc les travaux devront bientôt commencer.
Bon. D'autres actualités de projets ?
Les actualités... On essaye de se diversifier. Le jeu, malheureusement, le jeu de la référence chez les architectes a souvent tendance à nous inscrire dans des territoires programmatiques. Même si on adore le logement, même si on adore le tertiaire, même si on adore les mettre ensemble et fabriquer des objets mixtes, on se bagarre aussi vraiment pour continuer à travailler sur des commandes publiques. Il y a un vrai boulot qui est fait à l'agence pour s'inscrire sur des concours. On a la chance d'avoir réussi à remettre un pied, notamment dans le domaine du scolaire. Alors on parlait de l'école de Tours à l'instant, mais justement il a fallu faire un vrai effort sans référence pour pouvoir...
C'est ce que j'allais dire, bravo, parce qu'en général on demande toujours la référence.
Malheureusement, en fait, ça peut être un cercle dangereux, parce que pour... reconquérir, on va dire, un domaine qui vous a fait défaut à un moment donné, ça veut dire qu'il faut, il faut être assez humble et retourner sur des projets un petit peu plus petits. Donc ça veut dire prendre la place d'agences peut-être un petit peu moins structurées pour pouvoir se refaire des références, quelle que soit leur taille, et pouvoir justifier 2, 3, 4 références significatives dans un domaine avant de pouvoir faire plus gros. Donc on a réussi à le faire sur le scolaire avec bonheur, parce que c'est un sujet qui nous botte vraiment. Gonelle nous parlait de l'imaginaire de l'enfant. C'est des choses qui nous parlent beaucoup. Moi, j'étais à l'école Montessori, en l'occurrence, sans raconter trop ma vie. C'est quelque chose d'extrêmement important dans ma construction personnelle. Il y a toujours eu un lien extrêmement fort entre la pédagogie montessorienne et les architectes. Donc c'est peut-être pour ça que ça nous guide naturellement vers ça.
Ça se concrétise comment ? Est-ce que vous auriez des mots pour le décrire, ce lien ?
Non, j'aurais pas de mots pour le décrire, si ce n'est une certaine forme de sensibilité. Je parle pour moi, hein, vraiment. Oui. une certaine forme de sensibilité. Ce que j'observe, puisque j'ai aussi mes enfants qui sont passés par cette école, c'est que ça fait pas des gamins plus intelligents, ça fait pas des gamins forcément plus performants. En tout cas, ça fait généralement, ou peut-être un peu plus généralement, des gens bien dans leur peau et qui sont capables de s'adapter à des situations diverses. Si moi, je devais me qualifier, c'est peut-être par ce biais-là. Je crois être capable de m'adapter à pas mal de situations très variées dans la vie. Et je pense que c'est ça qui pourrait être le lien avec les architectes. C'est aussi
le travail de l'espace.
Le toucher, le ressenti, le travail de l'espace. Pour rien cacher, d'ailleurs, le diplôme de mon père, c'était sur ce rapport entre la pédagogie montessorienne et l'architecture. Donc c'est... Voilà, tout est lié, évidemment, ça me revient comme ça, mais en tout cas, c'est peut-être pour ça qu'on travaille avec bonheur sur ces projets.
J'avais fait un open en Italie aussi, où c'était une école, on avait appliqué les principes montessoriens à la conception de l'école.
Alors, quels sont ces principes montessoriens dans la conception? Vous en rappelez?
Non, mais c'est plus intéressant que ce soit toi, parce que moi, c'est un peu mon...
Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, comme Obélix.
J'ai pas connu autre chose.
Ouais. Peut-être que c'est dans cette notion en fait, de limite et de barrière, une école montessorienne ne va pas fonctionner en fait, par classe en fait, successive, mais va plutôt partir de l'enfant et chercher en fait, à adapter en fait, l'enfant.
Adapter l'univers de l'enfant à l'enfant.
Exactement. Et du coup, le travail qu'on avait développé était... les limites étaient beaucoup plus gommées entre les espaces intérieurs et extérieurs. Elles étaient d'ailleurs dans les arbres, flottaient littéralement au niveau du parc. Et voilà, il y avait cette notion de deux en deux d'or et de classe d'âge qui était totalement gommée au profit de l'évolution propre de l'enfant.
Et une vraie recherche d'un rapport à l'extérieur de pouvoir toucher le haut-pied des arbres depuis la cour de récréation, qui était elle-même suspendue. Donc effectivement, d'essayer de décortiquer quelle pouvait être l'appréhension des sens chez l'enfant.
L'expérience.
Et des expériences, ouais. Puisque c'est un peu ça, le maître mot, c'est apprendre à faire par soi-même.
Voilà, et donc pas d'espace contraint, mais au contraire un appel vers la liberté, la créativité.
Tout à fait.
Intéressant. On l'avait évoqué un peu avec Infabric. Ce questionnement-là, qui est très intéressant. Espérons que l'école française nous entende.
Oui, mais je pense que les choses sont en train de largement évoluer dans ce sens.
Ouais.
En tout cas, en France, c'est déjà le cas dans pas mal de pays. Hein. La pédagogie, cette pédagogie, mais il y en a d'autres, hein, la méthode Freinet notamment, qui font des émules. Et pas mal d'enseignants aujourd'hui ou d'instituts se forment à ces pédagogies-là et insufflent des choses, y compris dans le système plus traditionnel.
Et vous pensez que cet apprentissage de la sensation vous a emmené vers des matérialités fortes dans l'expression de votre architecture? Ou de quelle manière, en tout cas?
Alors moi, j'ai pas suivi cet enseignement, mais en tout cas, dans ce qu'on cherche en tout cas à développer, c'est une recherche de la matière, enfin, la plus juste possible. En tout cas, elle doit exprimer ce qu'elle est. Donc on va rechercher ou privilégier plutôt des matériaux bruts, des couleurs propres en fait aux différents matériaux et faire que les assemblages également soient naturels. Donc je pense que plus on avance dans notre pratique, ce qui est le cas de beaucoup de monde en fait, et plus on cherche en fait à épurer ou à simplifier en fait des choses. Et logiquement, quand le projet se pose bien, il doit fonctionner avec assez simplement.
Oui, dans une logique qui s'impose.
Exactement. Ouais, on parle de vérité des matériaux. Aujourd'hui, je ne sais pas si ce qu'on fait tend à se radicaliser, mais on essaye de faire au maximum disparaître tous les jeux d'artifice. On essaye de faire disparaître les effets. Et c'est effectivement, comme le disait Gwenaël tout à l'heure, plutôt l'usage qui va fabriquer la narration du projet. Et ça passe aussi par la matière. On a parlé aussi de la partie environnementale ou du développement durable. Nous, on le voit d'abord comme sorte de bon sens paysan. On essaye de poser les choses pour ce qu'elles sont, d'abord d'orienter les choses de manière assez logique et avant de trouver les mécanismes qui nous permettraient d'améliorer la situation. Voilà, donc on essaye d'être sur une grille de lecture où on passe tout dans l'entonnoir pour que les projets soient les plus justes possibles. Et on n'a pas de matériaux de prédilection, on n'a pas de matérialité de prédilection. En revanche, on recherche, et c'est peut-être un but, pas encore complètement atteint, mais à fabriquer les projets qui soient les plus contextuels possibles, aller puiser dans ce qui existe déjà sur un lieu, dans une technique, et emprunter au monde physique de là où s'inscrit le projet, au monde politique ou historique de la commune dans laquelle on est amené à opérer. Mais il n'y a pas de matériaux, de matérialité de prédiction, si ce n'est une recherche de sens. Il l'avait relevé d'ailleurs Jean-Louis Violeau au sujet de la Tour Amazonie, peut-être quand même un goût pour équilibrer les choses entre du lisse, du rugueux, entre du léger ou du plus massif, entre du brillant et du plus mat. Peut-être qu'on a besoin de cet équilibre, un peu comme ça peut se faire, comme ça peut se faire en cuisine. On a la sensation en vieillissant que l'architecture, c'est de plus en plus un jeu d'équilibre. Voilà.
Et de contraste.
Et de contraste, physique ou politique.
Carrément.
Carrément.
Vous aimez l'hybridation ?
On aime bien les projets hybrides. On apprécie travailler sur différents territoires. On développe chez Alta des projets d'architecture, d'urbanisme, on en a parlé, mais également des plus petites structures rattachées plutôt au domaine de l'art, en tout cas hybride, vers ces disciplines. Il y a 2 ans, pour formaliser un petit peu ses envies, on a monté un fonds de dotation pour développer des actions à la fois de recherche architecturale et aussi artistique. C'était issu d'une première installation, d'une commande du voyage à Nantes. Il y a de ça, on a dû livrer ça en 2010.
Ouais, 2010. Ouais.
En même temps que la Tour Amazonie, donc qui était une structure hybride, là pour le coup, entre l'architecture et le sport. Il y avait aussi une notion d'usage déjà au sein de ce projet-là, puisque on souhaitait rassembler différents âges autour de la pratique du sport. Donc il y avait des enfants avec des panneaux à 1,50 m, des minimes, des cadets et même des géants qui n'existent pas avec des panneaux.
On parle d'un projet qui s'appelle l'Arbre à basket, qui est une structure effectivement à la rencontre de l'architecture, du sport et du design. Ça touche un petit peu à tout, mais déjà une histoire de verticalité à Nantes à peu près au même moment que le projet dont on a déjà pas mal parlé.
Il me semble que j'ai vu passer des images.
Oui. Et par la suite, on a développé différents projets plus larges. Donc un premier qui s'appelle Musière, où on a demandé à des architectes français et internationaux de réinterpréter des nichoirs. Donc c'est un parcours dans l'espace public rennais. On termine la dernière livraison prochainement, c'est dans un mois. On essaye d'initier un parcours à peu près similaire, mais autour des bunkers, donc de la Seconde Guerre mondiale, sur le littoral breton, dans le Morbihan. Et on soutient également une résidence de recherche architecturale à Etel, donc au bord de l'eau encore.
Chez nous,
dans la ria d'Etel. Voilà.
Bon, super. Comment est composée votre équipe de 35 personnes, puisqu'on l'a déjà évoqué, mais beaucoup de chefs de projet? De quelle manière tout ça s'agite, s'organise?
On a plusieurs métiers dans notre agence. Dans la structuration aussi successive, on a essayé de trouver des compétences pour nous accompagner, pour développer des choses spécifiques. Je pense à des images. On a engagé notamment différents perspectivistes. On s'attache depuis quelques années maintenant à redévelopper des maquettes. Donc il y a une maquettiste aussi qui nous accompagne depuis pas longtemps. On a une communicante, on a une juriste, parce qu'on on s'intéresse au droit également.
Très important.
Plein de métiers différents.
Disons qu'on essaie de trouver toutes les compétences qui nous permettent à nous deux de nous recentrer et de passer de plus en plus de temps sur les projets. La question juridique pouvait être assez énergivore, mais concernant, c'était même presque un abandon, parce que je pense que chacun est fait pour son métier et les spécialistes des spécialités sont bien là pour quelque chose. Donc en fait, s'attacher à avoir des métiers en plus à l'agence, ça permet de donner un certain cadre et du confort aux gens qui sont à l'agence toute la journée, qui dessinent en l'occurrence. Mais il y a toujours eu, de toute façon, l'envie de multiplier les compétences pour que chacun travaille effectivement à son plein rendement. Donc il y a évidemment une majorité d'architectes à l'agence, mais il y a aussi des dessinateurs projeteurs qui font tourner ces projets-là en cohérence avec l'architecte chef de projet. Il y a des urbanistes, on a une vraie cellule technique avec des gens qui suivent le chantier de manière assez pro, puisque le chantier est un monde un peu contesté aux architectes désormais. On essaye de comprendre pourquoi, on essaye de voir comment font ceux qui nous contestent cette mission de notre métier, puisque c'est bien le métier de l'architecte que de construire. Donc on essaye de trouver des solutions pour aller reconquérir le cœur de nos maîtres d'ouvrage et qu'ils nous fassent en tout cas confiance. En tout cas, sur ces 35 personnes-là, compris nous, on a l'envie de faire perdurer ce qui était l'ADN de l'agence avant même qu'on y arrive. C'est quelque chose du coup d'assez familial, très horizontal dans la manière dont ça fonctionne. Alors c'est parfois un peu compliqué parce qu'il faut être un petit peu au four et au moulin, étant donné, on en a parlé, le nombre de projets qu'on peut avoir, mais tout le monde est chef de son projet, que ce soit l'architecte, la personne qui suit le chantier ou la personne qui répond au téléphone. On réfère tous aux uns et aux autres. Il n'y a pas de structure ni hiérarchique ni pyramidale à l'agence.
Oui, donc de l'autonomie et de la responsabilité.
Sans doute
tous.
Un peu trop parfois. Ouais. en tout cas, de leur fait.
Ouais. La transversalité, le pôle chantier qu'on a structuré avec le temps est vraiment très important. Le fait de bien construire, ça reste la finalité en fait de notre métier. Et c'est important également d'avoir des retours d'expérience et des échanges entre le pôle chantier qui est géré à la fois par des ingénieurs, mais aussi en grande partie par des architectes, puisse nourrir la conception. Donc cet aller-retour est primordial.
D'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites, parce que sur les logements, c'est pas évident d'être missionné sur l'exécution. Vous y arrivez vraiment de manière... Comment ça se passe? Vous bataillez pour obtenir...
On a une vraie récurrence avec un certain nombre de maîtres d'ouvrage qui nous font confiance. On fait aussi la différence entre les maîtrises d'ouvrage qui ont les compétences en interne et qui ont développé ce métier, donc qui font ça, qui nous demandent de suivre les chantiers de nos projets parce qu'ils sont équipés, on va dire, en interne. Mais on fait la différence avec des maîtres d'ouvrage qui vont systématiquement aller chercher quelqu'un d'autre pour chercher quelqu'un d'autre. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a le fait que c'est aussi une manière de négocier une deuxième fois avec une entreprise qui va suivre le chantier. Mais surtout, je pense que les architectes sont en train de faire un petit peu leur évolution et en train d'essayer de comprendre pourquoi le chantier leur a été confisqué, on va dire. Je crois que les raisons sont un peu caricaturales, mais l'idée qu'un architecte aujourd'hui qui suit un chantier pourrait être trop charrette sur un concours pour pouvoir assurer au mieux sa mission sur le chantier, je pense que ça a un peu disparu. Les gens ont compris que c'était de toute façon un moment hyper décisif pour les projets et qu'il fallait être hyper présent à ce moment du projet. Donc il y a une vraie bagarre qui s'est mise en place pour que la profession globalement reprenne pied dans ces missions-là. Là, on parle plutôt de l'univers privé, on parle plutôt de l'univers de l'immobilier, en l'occurrence, parce que ce n'est pas le cas en marché public. Oui. Moi, j'y crois, je suis optimiste pour la suite, à nous tous collectivement de montrer que c'est notre métier.
Vous êtes des architectes qui travaillaient en région, et d'ailleurs, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation et d'être venu directement de Rennes pour témoigner dans Comme d'Archi. Quelle vision vous avez du milieu parisien? Vous trouvez que c'est encore très dans un entre-soi ou est-ce que ça s'ouvre? Comment vous le vivez, ça?
Terrain glissant.
En fait, on a travaillé en tant que collaborateur dans un premier temps. En fait,
vous êtes déjà imprégné.
Dans des agences, on a exercé nos premiers projets en fait ont été conçus à Paris, même si les deux premières commandes qu'on a pu avoir, c'était la première à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, et l'autre à côté de Saint-Brieuc. Donc voilà, deux opposés. Même en travaillant depuis Paris, on avait nos premières commandes en fait en province, si on peut dire. On a toujours de très bonnes relations avec le milieu parisien.
Non, il n'y a, oui. a pas vraiment d'appréhension de ce point de vue-là. Effectivement, on a toujours pas mal de copains sur Paris avec qui on s'associe parfois. Quand on a besoin d'eux, quand ils ont besoin de nous, quand on pense qu'il s'agit de grouper les forces. Et je pense que la scène parisienne nourrit aussi parce qu'elle irradie de manière assez naturelle. Elle est au plus proche des décisions, elle est au plus proche des médias. Ce qui fait qu'il y a une visibilité des architectes parisiens qui fait que ça a tendance à nourrir aussi les régions. Donc on va pas s'en offusquer. Après, il y a toujours la question de régions qui sont dotées de professionnels, d'architectes issus d'écoles d'architecture de région. Ou comment est-ce qu'on donne au maximum la chance à des gens qui sortent d'une école, que ce soit Rennes, que ce soit Nantes, que ce soit Bordeaux ou Marseille. Comment est-ce qu'on donne déjà la chance à son vivier local? Nous, on essaye surtout de prendre ça du bon côté, le fait qu'il y ait pas mal d'agences qui puissent venir en Bretagne, parce que c'est hyper stimulant. On se rend aussi compte que globalement, ce qu'on essaye de produire ou de fabriquer aujourd'hui comme projet, tend à s'améliorer du fait de l'adversité. Il y a pas mal de confrères qui sont des modèles. Il y a des gens contre lesquels on concourt aujourd'hui, qui peuvent être des copains, mais qui sont malgré tout, au moment du concours...
Des concurrents,
mais plus l'agence est retenue sur des concours importants, plus l'adversité elle est là, parce que les gens sont plus forts en face, et nous ça nous stimule, ça nous oblige à faire mieux qu'avant, donc c'est forcément bien pour la profession. Encore faut-il que, pour la profession sur nos territoires régionaux, encore faut-il que tout le monde ait sa chance. Mais non, on ne voit pas ça d'un œil acerbe, puisqu'on y a été longtemps et qu'à l'époque où on y était, on n'avait pas envie d'être vu comme ça non plus.
Et oui, j'imagine. Et puis aussi, la période Covid a créé un mouvement dans l'autre sens.
Aussi.
Et je pense que c'est formidable, c'est bien. Donc c'est un monde qui s'ouvre.
Ouais, ben...
Finalement... Tu es assez optimiste.
Sur nos territoires à nous, je pense que ça a toujours été ouvert. Ouais. Il y a effectivement un appel...
De trop, peut-être, et vous.
il y a effectivement un appel du large aujourd'hui qui se ressent pas mal. Nantes comme Rennes sont maintenant à la porte de Paris, donc il y a pas mal de gens qui peuvent faire plusieurs allers-retours par semaine, on le fait. Quelques associés de certaines agences s'installent en Bretagne et retournent pour quelques jours dans leur agence parisienne. Mais non, moi, je trouve que c'est hyper stimulant parce que ça oblige tout le monde à se bouger un petit peu.
Comment imaginez-vous l'avenir ?
Plutôt déjà très positivement. On l'a dit tout à l'heure, on a fait une première boucle. En fait, on s'apprête à se lancer dans une deuxième boucle. Donc, beaucoup d'envie en fait, pour prolonger en fait, l'aventure.
Vous savez dans quel axe vous allez aller, justement ?
On souhaite en fait développer et amplifier le côté diversifié. Donc, on apprécie que des clients viennent nous voir pour nous proposer 15 logements comme 200, de pouvoir travailler sur des écoles, sur des lycées, sur des équipements aquatiques et sur d'autres. En fait, on est venu nous chercher. Il n'y a pas si longtemps, pour travailler sur des bâtiments religieux. On a participé en fait à un concours d'une grande usine. Voilà, les sujets ne sont pas arrêtés, au contraire. Et c'est ce qui nous anime, en fait, de travailler sur des programmes diversifiés et d'être au plus juste à chaque fois, en tout cas de rechercher ça.
Ouais, de la même manière qu'on essaye d'aller voir dans d'autres secteurs géographiques ce qui se passe, on essaye d'aller voir sur d'autres territoires programmatiques ce qui peut se passer, parce que tous les projets se nourrissent. Gwenaël évoquait tout à l'heure le fait d'essayer de mettre de la domesticité dans les bureaux. On peut aussi imaginer que les bureaux nourrissent le logement, ou comment ces grands espaces au sous-plafond peuvent générer des vraies qualités. Tout est important et il n'y a pas de commande meilleure que d'autres. On s'est éclaté là à faire une chaufferie pour des religieuses en Bretagne, dont on achève le chantier. Il n'y a que des bons sujets. Encore faut-il qu'il y ait une vraie rencontre avec les gens qui viennent nous voir. Et c'est un peu ça le leitmotiv aujourd'hui. C'est l'avenir, on ne le voit qu'au travers de rencontres intéressantes et d'une vraie prise de plaisir. On a le luxe aujourd'hui d'avoir du travail. On a la chance, on veut globalement que nos projets soient, je me répète, des belles histoires.
Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui ?
De s'ouvrir en fait au monde, de voyager, de découvrir un maximum de choses, et puis de, in fine, de se trouver soi, parce que on a eu la chance d'avoir un super enseignement, en tout cas à Nantes, qui nous a donné une ouverture d'esprit très grande, et qui, sur la fin de nos études, nous a permis de peut-être mieux nous trouver et nous donner en tout cas une route, en tout cas à suivre, et on avance sur celle-ci depuis ce moment-là.
Ouais, moi je crois que c'est ça. Je crois que c'est le fait du voyage à petite ou plus grande échelle. Pour un Rennais, d'aller à Saint-Brieuc, c'est déjà aussi une ouverture sur le monde. Les Bretons sont
très aventureux.
On a l'impression de vivre sur un continent parfois.
Obélix n'est pas loin.
Obélix n'est pas loin, surtout de Saint-Brieuc. En l'occurrence, oui, on a parlé de nos études tout à l'heure en Erasmus, mais moi je pense là que c'est un élément, un curseur, pour le coup, dans ma vie, il y a un avant et un après Erasmus. Où qu'on aille, c'est un moment où on fait un peu le point sur soi, on s'ouvre surtout beaucoup, beaucoup aux autres. Donc moi, si j'avais un conseil à leur donner, c'est d'abord de bouger, d'aller emmagasiner plein de richesses intellectuelles pour pouvoir après les retranscrire comme des références qu'on va remettre dans un projet. C'est ça, moi j'ai pas de conseil à donner sur le boulot en particulier, parce que c'est toujours un apprentissage concrètement sur le terrain. Mais en tout cas, d'arriver avec un certain bagage, une certaine curiosité. Et puis si, peut-être quand même avoir pris le temps de bosser un peu en agence et d'avoir vu un petit peu toutes les phases du projet qu'il y avait à voir.
C'est un peu plus compliqué, j'ai cru comprendre. Ouais. Maintenant, ils ont des...
Et travailler la matérialité, c'est-à-dire la faisabilité en fait, des projets, la construction, l'assemblage, c'est primordial.
Bon, votre prochaine livraison ?
Prochaine livraison, on livre un beau lycée. Quand on disait que c'était une reconquête, les équipements... Alors c'est un équipement qui est un équipement privé, mais on livre un beau lycée à Saint-Malo.
On livre une piscine à Guenrouette.
Vous en faites beaucoup de piscines ?
Historiquement, l'agence en faisait beaucoup. Alain Tasso et Jean-Luc Letrion en faisaient beaucoup. Le jeu de la référence, à nouveau, hein, puisqu'ils en faisaient, c'était devenu un petit peu les spécialistes de la spécialité en Bretagne, en tout cas. Quand on les a rejoints, il y a quelques années maintenant, peut-être qu'on n'a pas été suffisamment impliqué. Du coup, on a perdu quelques concours successifs, ce qui fait qu'on a perdu le fil. Un peu à l'image du scolaire, on est en train de remettre vraiment le pied dedans, là, et du coup, de se reconstituer à nouveau des références pour pouvoir reprendre ça. C'est un sujet qui est assez passionnant aussi, qui est très technique.
Oui, je sais. Mais on en a trois en développement, en fait, en ce moment.
Oui, quand même. Et dans le Grand Ouest ?
Plutôt dans le Grand Ouest, ouais. Oui. Avec de la réhabilitation, des bases ouvertes extérieures. Et on réhabilite... Il y a un truc assez marrant, c'est que nous, on vient de réhabiliter la première piscine qu'avaient fait nos aînés. Et donc voilà, il y a une espèce de...
La boucle est bouclée.
De boucle qui se boucle. On saura s'ils trouvent que c'est bien. Ouais. Et nous dirons... Et puis qu'est-ce qu'on livre ? On livre cette fameuse chaufferie pour les sœurs. On livre des logements, bien entendu.
Des bureaux.
Pas mal de choses, ouais.
Bon, formidable. Un mot de la fin.
Ben, on vous remercie pour votre accueil.
Bah, c'est moi qui vous remercie.
C'est chouette, on aime bien revenir à Paris, nous.
Merci. Ouais, puis vous avez vu, c'est pas loin.
Ah ben non, mais on est à moins
de
2 heures de chez
nous. Pour tous les architectes du Grand Ouest.
Mmh. Exactement.
N'hésitez pas à nous écrire pour venir témoigner dans Comme d'Archi. Merci beaucoup de votre témoignage et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas le numéro en anglais. À bientôt. Au revoir.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.